Le journal était présenté par Sarah Petitbon, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous. Un secret des sources exceptionnel ce matin avec les grands reporters de Radio France.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est la base du métier, la base du journalisme, la valeur ajoutée, l'élément qui, dans un journal radio, nous éclaire, grâce auquel on comprend mieux le monde qui nous entoure. Jean-Claude Guibaud, l'écrivain et journaliste, dans un article publié dans Nouvel Obs, sous le titre « Les clochards des Hilton », rend un très bel hommage aux reporters de terrain, les petits-fils et filles d'Albert Londres, qui réconfortent l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur. Leur passion du journalisme, leur curiosité tatillonne, leur courage dans les mauvais coups, rarement conviés sous les sunlights des plateaux télé. Ce sont pourtant eux, les reporters de terrain, les véritables princes du journalisme. On écoute avec bonheur leur travail, le travail de ces soutiens magnifiques de la profession. Hommage de Jean-Claude Guibaud. Autant dire que le reportage, c'est essentiel. Les coulisses des meilleurs reportages radio de l'année. On en parle ce matin avec nos invités en studio. Mathilde Lemaire, grand reporter à France Info, qui accumule les récompenses. Le prix Radio France et le prix Varenne pour votre reportage dans le train entre Donetsk et Kiev. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Ludovic Piétenu, grand reporter à France Culture, qui a passé son été à Gaza sous les bombardements, au milieu des combats, des reportages qui nous ont marqués. Bonjour.
Bonjour à tous.
Omar Waman, correspondant de Radio France à Beyrouth. Omar, lauréat 2008 du prix du reportage Radio France et habitué des terrains de guerre. Omar Waman nous rejoindra dans le courant de l'émission. Et Olivier Poujade, grand reporter à France Inter, lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre pour son reportage en Centrafrique, l'opération Sangaris dans le piège de Bangui. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Nos deux regards extérieurs, aujourd'hui Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour à Bonjour. Tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes aujourd'hui, Johan-Richard Dufour. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Nous étions 25 à la maison quand ça a commencé à tirer. On est sorti.
Le secret des sources.
Mathilde Lemaire, alors. Vous vous êtes rendu, vous, plusieurs fois, à plusieurs reprises, hein, dans l'est de l'Ukraine. Le reportage que l'on va entendre dans quelques secondes, vous l'avez tourné au mois de mai dernier. Il a été diffusé le 30 mai. Alors, c'est une période tendue dans l'est de l'Ukraine. Il y a des combats. Quel est le contexte, Mathilde ?
En fait, l'élection présidentielle vient d'avoir lieu. Et au lendemain de l'élection présidentielle, les choses se compliquent sérieusement dès le lundi matin, avec des combats violents qui débutent sur le site de l'aéroport de Donetsk, entre séparatistes pro-russes et soldats ukrainiens. Nous, reporters, nous avions pris un billet d'avion aller-retour. Forcément, il n'y a pas eu de retour. Au moment où je vous parle, l'aéroport de Donetsk n'a toujours pas rouvert. Il a donc été fermé, les vols annulés. Au lendemain de cette élection présidentielle, il a fallu trouver pour nous un moment donné le moyen de rentrer. C'était la route ou le rail. C'était très compliqué avec des barrages partout. On a choisi le rail.
Et on écoute votre reportage réalisé avec Jean-Marie Porcher, le technicien de reportage qui vous accompagnait.
6h du matin, fin du couvre-feu, gare de Donetsk. C'est là que lundi, deux civils ont été tués, pris dans les combats. Les passagers se massent sur le quai. On devine des séparations douloureuses. La locomotive qui tire 5 wagons rouges démarre, destination Kiev. Les hôtesses servent du thé chaud dans de grandes tasses en étain. Les compartiments sont tous couchettes, au sol, des tapis orientaux. En deuxième classe, Ina, 27 ans, est en train d'allaiter son bébé. Elle et son mari ont les larmes aux yeux. Pour Ina, ce départ est une fuite.
On habite près de la gare. Lundi, ça a été l'enfer. Il y avait des tirs de partout. On a dû se cacher sous les meubles. Pas question de revivre ça. Alors avec mon mari, on a fait nos valises. On a pris l'essentiel, surtout des habits. Mon frère, qui habite Kiev, va nous accueillir. On sera serrés dans une petite chambre. Jamais je n'aurais cru devoir fuir ma maison comme mon arrière-grand-mère en 40. Rendez-vous compte, au 21e siècle.
À travers la vitre, les paysages défilent, les usines de l'Est, puis les steppes, les forêts, les vaches, les petits villages. Qui pourrait dire que ce pays connaît une guerre civile? Sur les billets, il est écrit que le train arrivera à Kiev à 14h17, mais Vania, le contrôleur, prévient, ce sera plutôt 17h.
J'ai vu l'ambiance vraiment changer ces dernières semaines sur cette ligne. C'est tendu. Les gens qui voyagent sont de plus en plus des gens qui fuient la région. Et puis maintenant qu'il n'y a plus d'avion, tout le monde veut prendre ce train. Il est tout le temps plein. Par contre, plus question de passer par Slaviansk. Il y a trop de tirs, trop de dangers. Alors on fait un long détour par Pavlograd. Ça nous rallonge de 3 heures, mais au moins pas de risque de violence.
Cela faisait plusieurs jours qu'on ne croisait plus d'enfants dans les rues de Donetsk. Trop dangereux. Dans ce train, ils sont très nombreux, insouciants. Anastasia ne quitte pas son petit garçon des yeux. Cette trentenaire aux cheveux noirs, très apprêtée, a un bon niveau de vie. Elle s'est installée avec une amie en première classe. Anastasia est angoissée par ce voyage, mais la situation à Donetsk l'affolait plus encore.
C'est pour nos enfants qu'on part. Je ne sais pas quel traumatisme psychique cela peut provoquer sur un enfant de 8 ans, de voir des hommes cagoulés, d'entendre des obus. C'est dur, car nous avons laissé nos maris. Ils sont chefs d'entreprise, eux ne peuvent pas tout quitter comme ça. Pour le moment, nous allons à Mirgorod, une ville thermale à 300 km. On va se poser dans un hôtel pour nous remettre de nos émotions. On part pour une semaine, un mois, on ne sait pas en fait. Si ça ne s'arrange pas, on partira peut-être à l'étranger.
Poltova, un des rares arrêts. Des passagers font remarquer qu'ici, il n'y a plus d'hommes armés cagoulés, plus de risque d'entendre des tirs d'obus ou de kalachnikov. Les visages se décrispent. Yuri, la quarantaine, a l'habitude de sillonner le pays pour ses affaires. Il vend des logiciels. Il avait acheté un pied-à-terre à Donetsk. Très mauvaise affaire.
Chaque jour, le prix de mon appartement baisse de 10%. Je l'ai payé 40 000 $. Il ne vaudra bientôt plus rien. Je ne vois pas comment je pourrais le revendre. Qui veut acheter à Donetsk avec ces événements? De manière générale, si des négociations de paix ne sont pas engagées, très vite, ça sera bientôt invivable et l'économie sera sinistrée. Tout ça a déjà des conséquences catastrophiques pour les entreprises. Impossible de faire des affaires.
Le voyage est long, les hôtesses préparent des sandwichs et quand il n'y a plus de commandes, elles soufflent un peu. Natalia, uniforme et cheveux roux tressés, fait des blagues pour amuser ses collègues.
C'est l'humour qui nous aide à tenir dans des circonstances si difficiles. Avec ce qui se passe, je m'inquiète pour mon mari et mes enfants qui restent à la maison quand je pars travailler. Heureusement, dans ce train, on a créé comme une deuxième famille entre collègues. Nos liens sont forts.
Jean-Jacques Goldman, comme toi, dans le train Donetsk-Kiev, une très belle séquence hors du temps, comme vous dites, comme vous dites à la fin du reportage. Ce reportage dans le train, Mathilde, c'est un pur hasard. Vous expliquez que vous deviez prendre l'avion, l'aéroport est fermé. Ce n'est pas un reportage que vous aviez travaillé en amont, c'est vraiment le hasard.
Non, on est parti en se disant peut-être il y aura un reportage. Tout de même, j'espérais qu'il y ait un reportage. La preuve, j'étais partie avec une traductrice. Sans traducteur, il n'y a pas de sujet sur un reportage comme celui-ci. Et elle a accepté de faire 11 heures aller, 11 heures retour, Donetsk-Kiev, puis retour à Donetsk pour moi, 22 heures de train. Et je l'associe un petit peu à ce reportage, Marina.
Alors, on sent une complicité entre vous et les personnes interviewées. Sur le quai, qu'est-ce que vous voyez avant de monter sur le train? C'est bondé, les gens fuient, c'est vraiment l'exode?
Voilà, c'est ce que j'explique brièvement. Depuis 15 jours, en fait, on ne voyait plus d'enfants dans les rues de Donetsk quand on est en reportage. On voit ce qui passe sous nos yeux, on ne voit pas ce qui n'est pas sous nos yeux. En l'occurrence, depuis 2 semaines, on n'avait pas vu d'enfants. Forcément, ils étaient enfermés dans les maisons. Les familles les gardaient bien au chaud à l'intérieur, loin des fenêtres, loin des obus. Et là, sur ce quai de gare, à 6h du matin, on voit plein d'enfants et plein de baluchons, de sacs, de valises, et on comprend que ça va être un train de l'exode. C'est le début, c'est les tout premiers habitants de l'Est qui fuient Donetsk vers Kiev pour eux. D'autres fuyaient vers la Russie, selon leur sensibilité, selon où se trouvait leur famille. On sait qu'ensuite, près de 350 000 personnes ont fui la région.
Alors, les personnes que vous interviewez, dont vous êtes à bord du train avec elles, elles se manifestent, elles viennent vous voir, ou c'est vous qui vous dites « Ah, tiens, j'aimerais bien parler de cette personne avec son enfant ?»
Oui, il y a de très belles images dans ce train. D'ailleurs, il y a les photos à voir sur le site internet de France Info du technicien Jean-Marie Porcher. Il y a des images, cette jeune femme de 25 ans qui allaite son bébé dans ce train avec les larmes qui coulent. Enfin, c'est un tableau et donc forcément, j'ai envie d'aller la voir. Alors, c'est toujours délicat, on y va avec le plus de diplomatie possible parce qu'on comprend bien qu'il se passe quelque chose de très difficile. Pour eux, ce sont des civils qui avaient peu ou prou une vie un peu comme la vôtre ou la mienne. La vie à Donetsk, il y a un an, quand j'y suis allée en février, elle était très calme, paisible et elle a basculé cette vie. Ce sont des civils qui, depuis deux, trois générations, ne connaissaient pas la guerre, depuis 40 en fait. Et leur vie a basculé. Je pense que le reportage de guerre, c'est peut-être un peu ça aussi. C'est important d'entendre les mortiers, d'entendre les obus, c'est la réalité d'un conflit. Mais de temps en temps, on se dit, l'auditeur, peut-être dans sa voiture à Paris, il pense que ça peut être un film américain. Et montrer la vie des civils, la vie qui bascule, ça peut-être ça touche quand on entend une mère qui pleure. On peut se dire, et c'est la même chose d'ailleurs pour les reportages qui ont été tournés à Gaza cet été, je pense, quand on parle aux gens de la situation des gens comme vous et moi, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères, des enfants, j'ai comme idée que ça parle.
Est-ce que c'est difficile de quitter un terrain de reportage, Mathilde Lemaire, et de laisser les personnes avec qui on a loué des liens très forts, dans des moments très forts?
C'est vrai que c'est puissance 10, je pense que mes camarades reporters autour de la table ne me contrediront pas, mais on vit quelquefois en deux semaines des choses très intenses où il faudrait, dans un environnement normal à Paris, peut-être 2-3 mois pour tisser ces liens. C'est plus fort et quand France Info me renvoie sur le terrain à Donetsk, quand j'arrive en octobre dans l'est de l'Ukraine, je suis effectivement très émue de retrouver mon traducteur par exemple, parce qu'on partage énormément et ils acceptent de nous soutenir. Sans eux, il n'y a pas de sujet. Et quand on retrouve les civils aussi, ça arrive qu'on retrouve les gens. Comment ça va pour vous depuis 2-3 mois? Pourquoi vous n'avez pas fui? Pourquoi vous avez l'ambition de fuir? C'est vrai que c'est très fort. C'est pas des amitiés, c'est autre chose, mais c'est très fort.
Mathilde Lemaire pour son reportage Le train de l'exode entre Donetsk et Kiev, direction Gaza. L'été dernier, avec vous, Ludovic Piétenu et Gilles Gallinaro, le technicien de reportage qui vous accompagne à ce moment-là.
Tandis que les quatre enfants étaient très rapidement inhumés peu avant la rupture du jeûne du Ramadan, accompagnés par des milliers de Gazaouis, deux des quatre rescapés étaient admis à l'hôpital Shifa pour leurs blessures. Montazer, 11 ans, raconte la scène.
On était en train de regarder les
barres
et un missile est arrivé. Il y a eu deux morts. On a couru, on était quatre, deux autres sont morts à la deuxième frappe. Et les journalistes sont venus nous secourir. L'ambulance est venue et nous a amenés ici.
Montazer est blessé à la tête, au bras, à la jambe, des coupures un peu partout sur le corps à cause des éclats. Soudain, une frappe vise les abords de l'hôpital. Montazer sursaute. Le traumatisme de cet enfant, la douleur des parents et des proches, toute une famille, les Baker, des pêcheurs très connus à Gaza, reçoivent dans la soirée des condoléances. Aed Baker a perdu un fils, un petit-fils et deux neveux.
C'est un massacre.
Aed Baker insulte le premier ministre israélien.
Toi gamin, si t'es un homme, entre à Gaza. Je te jure que les premiers qui vont t'affronter, c'est la famille Baker.
La foule est en colère, la perspective d'une trêve durable s'éloigne.
Un reportage très fort, Ludovic, nous sommes au mois de juillet dernier, les enfants jouent sur la plage, près du port de Gaza, on voit les bateaux de la marine israélienne au large, et c'est le drame. Rappelez-nous ce qui se passe, Ludovic Piétenu.
Alors nous, c'est un mercredi après-midi, on rentre de reportage avec Gilles, on arrive dans la chambre d'hôtel, on commence à dérocher, donc à travailler notre matière sonore, et on entend une première détonation, très très proche de l'hôtel, juste en face de la fenêtre, sur cette digue.
Ça se déroule sous vos yeux.
Vraiment, on est à 50-100 mètres de ce préfabriqué qui a été visé, dans lequel s'étaient cachés les enfants, parce qu'ils jouaient à la balle aux prisonniers, je crois. Et voilà, il y en a deux qui sont pris au piège de cet Algeco. Les autres ont fui et ont pu fuir parce qu'ils étaient un petit peu à l'abri en contrebas de la digue. Une digue pleine de cailloux, de gros rochers. Voilà, et ça les a protégés de la première explosion. Seulement, il y a eu, au moment de leur fuite,
une deuxième explosion sur le sable, sur la plage.
Alors, on l'entend dans le reportage, des journalistes vont porter secours aux enfants. Est-ce que, Ludovic, c'est difficile dans des circonstances pareil, de rester un témoin neutre de ce qui se passe?
Alors, nous, avec Gilles, on entend la première explosion, donc on accourt sur le balcon, en fait, de notre chambre. Et aussitôt, il y a cette seconde explosion. Et dans les secondes qui suivent, il y a déjà des journalistes qui étaient par hasard sur la plage ou sur la route à côté de la plage qui sont vraiment les premiers à porter secours. Nous, on est depuis cette terrasse-là, finalement, on a juste un rôle d'observation. À ce moment-là, on pense même pas à aller porter secours. Enfin voilà, d'autres sont déjà en train de le faire. Après, il faut raconter immédiatement l'histoire. Donc, en fait, c'est ça, on est sur un point d'observation, on prend des photos, on veut prendre de l'image, on veut absolument tout de suite appeler sa rédaction, témoigner de ce qu'on a vécu. Enfin, voilà,
Et vous allez retrouver les enfants à l'hôpital.
Et le soir,
vous réalisez le reportage.
Après les funérailles, on décide d'aller à l'hôpital, on retrouve le petit Montazer, 11 ans. Et l'image, pour moi, presque la plus forte, ça a été ce sursaut, justement. Plus que l'horreur de la plage, pour moi, personnellement...
Le sursaut lorsqu'il entend un bombardement au moment de l'interview.
C'est ça. Parce que c'est là qu'on lit tout le traumatisme de ce que lui, il a vécu. Enfin, nous aussi, on a vécu cette attaque de la plage, finalement, et encore, on a loupé visuellement la première explosion. Mais dans son sursaut, à lui... on ressent vraiment le drame que lui a vécu.
Et c'est une particularité de vos reportages, Ludovic, puisqu'avec Gilles Gallinero, les reportages ont également été filmés et diffusés sur nos sites Inter, Info et Culture. Des reportages qui ont eu beaucoup de vues, plus de 40 000 vues pour le reportage que l'on vient d'entendre. Est-ce que le fait de filmer, ça change un peu le travail du reporter radio ?
Non. En fait, il faut faire abstraction de l'image. Moi, je sais que j'ai eu un peu de mal les 24 premières heures. C'est Gilles Gallinaro qui opère vraiment à la caméra. Et voilà, lui me disait, t'occupe pas de moi, tu fais ton travail de journaliste radio, ta prise de son, et moi, je m'adapte. Et effectivement, 24 heures plus tard, on trouve assez facilement sa place, vu qu'on nous demande de pas changer de place.
Même question que pour Mathilde Lemaire. Vous êtes retournée à Gaza depuis le mois de juillet. Vous avez retrouvé la famille Backer, les enfants, c'était difficile en juillet de les laisser après ce que vous avez vécu également.
Ouais, les Backer, on est allé les voir, effectivement, on est retourné les voir. Il y a des gens, en fait, c'est ça qui est un peu troublant, c'est que dans ces conflits longs comme ça, d'une cinquantaine de jours, comme celui de cet été, où moi, finalement, j'ai assisté qu'aux 12 premiers jours de conflit. Quand on revient après au moment de la trêve, donc au 50e, il y a effectivement des gens que vous avez connus qui sont morts. Le voisin, notamment, d'un francophone qu'on allait souvent voir à Beit Hanoun, dans le Nord. Quand on est revenu fin août, Mohamed, le francophone, nous dit le voisin, il n'est plus là. Donc c'est là qu'on prend conscience aussi de tout ce qu'on a laissé derrière nous et de la chance qu'on a, nous, de ne pas avoir vécu cet enfermement pendant 50 jours non-stop. Voilà, on l'a vécu simplement 12 jours, ce qui est déjà suffisant.
Les reporters peuvent partir de Gaza et des autres terrains de guerre. Voilà. C'est une grande différence. Et on a une pensée pour Rami, notre fixeur, qui est devenu votre ami.
Qu'on a revu évidemment fin août quand on est revenu pour la trêve. Mohamed aussi, un fixeur avec lequel Mathilde a travaillé aussi.
Des gens formidables.
Vraiment, c'est vrai, c'est des gens, effectivement, comme disait Mathilde, sans qui le reportage ne serait pas possible, surtout à Gaza, surtout sous les bombardements. Enfin, il faut vraiment avoir des gens en qui on a toute confiance.
Les coulisses des meilleurs reportages de l'année avec nos invités, Mathilde Lemaire, Ludovic Piétenu, Omar Waman, Olivier Poujade.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Thibaut Henton, notre chroniqueur connecté. C'est la fin de l'année, c'est une époque où on trouve beaucoup de compilations, les meilleures photos, les meilleurs reportages de l'année. Et ce genre de compilation, Thibaut, sur Internet, a beaucoup de succès.
Oui, vous n'avez pas pu tout voir, tout lire, vos ressources attentionnelles étant limitées, votre capacité d'attention ou temps de cerveau susceptible d'être vendu à Coca-Cola n'est pas infinie, pas grave. Vous pouvez vous rattraper pendant les fêtes, on vous a gardé le meilleur. La toile, évidemment, n'échappe pas à la règle. C'est même là, profusion oblige, que le combat est le plus rude pour capter notre attention aussitôt convertie en revenus publicitaires à base d'algorithmes, de clickbait, piège à clic en anglais. Exemple, c'est photos complètement surréalistes vont vous faire rêver, et de SEO, optimisation pour les moteurs de recherche, comprendre une URL qui contient les métadonnées les plus à même de faire remonter tel ou tel contenu dans le classement du moteur. Tout cela, notre ministre de la Culture, qui n'a pas le temps de lire Modiano mais s'entretient parfois avec Jean Tirole, l'a bien compris. En octobre dernier, lors des rencontres cinématographiques de Dijon, elle s'exprimait en ces termes.
La profusion des contenus, le caractère infini maintenant des contenus qui sont proposés, ça crée une pénurie d'attention. Donc aujourd'hui, la ressource rare, c'est plus le contenu, c'est plus l'information, c'est plus les contenus culturels. La ressource rare, c'est l'attention des gens.
Une certaine vision de la culture. Pour le contexte, je vous renvoie à l'article intitulé « Fleur Pellerin achève le ministère de la Culture à coups d'algorithme » sur le site de la revue Regard. Depuis plusieurs semaines, fleurissent donc les tops et les flops sur le web. J'en ai recensé quelques-uns, la sélection par Reuters des meilleures photos 2014, par exemple, pour rester dans l'esprit de l'émission, Centrafrique, Gaza, Afghanistan, ou encore l'année vue par Facebook en fonction des sujets qui ont généré le plus de conversations sur la plateforme. 1. La Coupe du Monde de foot. 2. Ebola. 3. Les élections au Brésil. 4. Le suicide de Robin Williams. Et ça continue jusqu'à 10.
Et dans les tops et autres listes, ce n'est pas réservé qu'à la fin de l'année.
En effet, c'est tout le temps. Certains sites récemment apparus ont connu un succès fulgurant en misant sur ces listes massivement partagées sur les réseaux sociaux. Des sites qui ont pour nom Upworthy ou BuzzFeed qui font l'objet de gros investissements outre-Atlantique, au point qu'un BuzzFeed se permet désormais de recruter des journalistes pour faire de l'enquête et du reportage tout ce qu'il y a de plus sérieux. BuzzFeed a lancé une antenne en France où il lutte avec d'autres sites comme Demotivateur.fr ou Topito.com, dont la spécificité est de se consacrer uniquement à des classements. Une des meilleures audiences sur leur chaîne YouTube est un top 5 des meilleurs goat versions de chansons célèbres, des chansons en version chèvre. Je vous laisse apprécier le concept. Voilà, bon, j'ai appelé chez Topito, secret des sources oblige, pour savoir un peu comment ils travaillent. Ça a commencé avec 2 personnes et 3 stagiaires. Aujourd'hui, ils sont 12 salariés. Ils font de vraies conférences de rédaction le matin pour programmer les listes du jour en lien avec l'actu de préférence. Une certaine actu, c'est ça qui marche le mieux. Leur modèle économique, des partenariats avec les marques et la publicité, plus spécifiquement les publicités natives. Comprendre des publicités qui ont l'air de vidéos tout à fait normales, histoire, mise en scène, mais qui sont en réalité sponsorisées par des marques. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est encore et toujours de capter votre attention à des fins de profit. Vous savez comment on appelle les internautes en économie numérique la plus crasse, non ? Des eyeballs, encore un terme anglais, eyeball, globe oculaire. Je finis donc cette chronique par une adresse et un conseil à vous autres, bande de globe oculaire qui êtes en train de lire l'internet tout en écoutant cette émission. En 2015, promettez de prendre garde à quoi vous accorderez votre attention. Kawé, Frédéric.
Thibaut Henton, heureusement que vous êtes là. Does anyone see? Voilà, on vient d'entendre Go Back de Tony Allen avec Damon Albarn, extrait de son album Film of Life qui vient de sortir. Nous allons maintenant entendre un document qui illustre la détresse des réfugiés syriens au Liban. Un reportage diffusé au mois de novembre, un reportage d'Omar Waman.
C'est dans l'un des endroits les plus pauvres du Liban que ce trafic sordide a pris racine, et plus précisément dans le bidonville de Hail Rorbi, qui se trouve dans le sud de Beyrouth, entre le camp de réfugiés palestiniens de Shatila et la cité sportive. Hail Rorbi est un concentré de misère humaine où s'entassent plus de 15 000 habitants, parmi lesquels de nombreux réfugiés syriens qui vivent au milieu des Libanais entre violence et délinquance. Le bidonville, dont certaines parties échappent au contrôle des autorités libanaises, est aussi réputé pour abriter les commerces les plus illégaux. Mahmoud est originaire de la ville d'Idlib, dans le nord de la Syrie. Ce jeune de 17 ans est arrivé au Liban il y a un an et demi. Il a vendu son rein gauche au mois de septembre dernier pour financer une opération chirurgicale pour sa petite sœur.
J'ai fait ça pour aider ma famille. Ma sœur doit se faire opérer et nous n'avons pas d'argent. Et
combien vous l'avez vendu sur un ?
9 000 $. Ils m'ont donné presque toute la somme. Ils me doivent encore 1 000 $, mais ils se sont engagés à prendre en charge les médicaments que je dois prendre, comme les antibiotiques, durant une année. C'était la condition pour que j'accepte.
C'était la seule solution pour vous, pour gagner un peu d'argent, pour aider votre famille ?
Oui, c'était vraiment le seul moyen. Nous manquons de tout et nous entendons tous les jours parler des ONG qui aident les réfugiés. Mais nous, personne ne nous a jamais aidés. Pas une seule fois.
Mahmoud a été repéré par Ahmad, un jeune Libanais de 30 ans qui vit également à Hail Rorbi. C'est un rabatteur. Il est chargé de trouver des vendeurs potentiels et de les guider vers une clinique clandestine où les opérations ont lieu en échange d'une commission.
Les réfugiés syriens sont nombreux, ils n'ont pas d'argent, ils sont très pauvres. Il suffit de les convaincre de faire l'opération. Ceux qui vendent leurs reins dorment souvent dehors, sous les ponts. C'est là que je les aborde. On commence par faire connaissance, on devient amis. Ils me disent qu'ils ont besoin d'argent pour nourrir leur famille, et c'est là que je leur propose de vendre un rein. Moi, mon travail est de trouver un vendeur, de le mettre en rapport avec eux, et c'est tout. Ensuite, ce n'est pas mon problème, ils en font ce qu'ils veulent.
Mais Ahmad, qui a les yeux rougis par la drogue, ne dira rien de l'organisation pour laquelle il travaille, et encore moins de l'endroit où se trouve cette clinique clandestine. Peu discret, Ahmad est l'une des personnalités les plus connues du bidonville, où il a été arrêté par la police il y a tout juste 2 semaines. Il attend désormais de passer en jugement, car le trafic d'organes est puni par la loi au Liban. Wael Boufaour, ministre de la Santé libanais.
Nous disposons de certaines informations que nous essayons de vérifier pour savoir si elles sont vraies. Les services de renseignement travaillent sur le dossier car ce sont des crimes auxquels le gouvernement, le ministère de la Santé et celui de l'Intérieur doivent mettre fin. Mais vous devez savoir aussi que certains camps de réfugiés échappent au contrôle du gouvernement libanais. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée. Et par ailleurs, nous avons plus d'un million de réfugiés syriens dans le pays. Parfois, certains de ces réfugiés, oui, sont victimes d'abus.
Le président de l'Ordre des médecins libanais, Antoine Boustany, a accepté de commenter ces informations, mais il rappelle que c'est aux autorités libanaises d'enquêter et d'arrêter les éventuels médecins impliqués dans ce trafic.
L'Ordre des médecins, je parle en tant qu'Ordre des médecins, ne peut pas courir et faire une enquête pour découvrir le médecin qui a dû faire cet acte malhonnête et contre l'éthique et la déontologie médicale. C'est aux instances policières de le faire. Et une fois ce médecin connu, il aura affaire à 2 instances, à 2 tribunaux, le tribunal de l'Ordre des médecins et le tribunal judiciaire. Chez nous, on le radie, il est radié de l'Ordre des médecins.
Ce phénomène, dont il est difficile pour l'instant de mesurer l'ampleur, illustre surtout l'extrême pauvreté dans laquelle sont plongés des centaines de milliers de réfugiés syriens au Liban. La perspective de pouvoir gagner plusieurs milliers de dollars en quelques heures pousse certains, ceux condamnés à traîner dans les rues, à accepter de vendre un rein sur les conseils de rabatteurs sans scrupules et au profit d'organisations évidemment impossibles à approcher.
9 000 $, un rein. Omar Waman en duplex avec nous. Salam alaikum Omar.
Ouais, salam alaikum Frédéric.
Alors ce trafic sordide dont vous nous parlez Omar est une question très sensible. J'imagine que c'est compliqué d'enquêter sur un sujet pareil. C'est un travail de longue haleine.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une journaliste d'un journal allemand, Der Spiegel, qui a travaillé là-dessus il y a un an. Et il se trouve que cette journaliste allemande a travaillé, elle a fait un papier où elle expliquait que Elle avait rencontré une personne qui avait vendu un rein. Elle expliquait également qu'il y avait un très grand réseau, un large réseau clandestin. Donc elle donnait des chiffres, évidemment, très difficiles à vérifier. Et il se trouve qu'après l'apparition de ce papier, elle a été convoquée par les autorités libanaises, en l'occurrence par le ministre que vous venez d'entendre, le ministre Wael Boufahou, le ministre de la Santé, qui a voulu savoir qui et où et comment elle avait eu ces chiffres. Il l'a intimidée et il l'a menacée de la traduire en justice pour calomnie et mauvaises informations, fausses informations. Elle a quitté le pays, elle a quitté le Liban. Il se trouve que ça a jeté un froid, une chape de plomb sur la communauté journalistique au Liban. Il se trouve qu'il faut savoir qu'au Liban et partout ailleurs, hein, la grande majorité des journalistes sont des précaires. Et il se trouve que là, aucun autre journaliste a travaillé sur le sujet. Donc moi, quand je suis arrivé à Beyrouth, la première chose que j'ai fait, c'était de me renseigner pourquoi les journalistes n'avaient pas travaillé sur le sujet. Ils m'ont dit, écoutez, si vous voulez travailler sur ce sujet-là, sachez que les autorités libanaises ne veulent pas l'entendre parler.
Et vous,
vous pouvez même être expulsé.
Et aujourd'hui, Omar, il y a toujours des pressions du gouvernement sur la presse étrangère, sur les correspondants étrangers?
Il se trouve que moi, j'ai enquêté plusieurs semaines, j'ai un très bon fixeur sur place, il m'a fait rencontrer la personne que vous avez entendue, le passeur, et avec cette matière-là, je suis allé voir le ministère de la Santé, je lui ai dit, voilà, moi, ce que j'ai obtenu, ce que j'ai recueilli comme témoignage, c'est totalement indéniable. Donc, j'ai vraiment joué carte sur table. J'ai attendu d'être légalement installé à Beyrouth, donc d'avoir une carte de résident, d'avoir un permis de travail. Et par la suite, j'ai diffusé le reportage. Et effectivement, les autorités libanaises n'étaient pas très contentes. Mais au vu et après avoir entendu le sujet, il n'y avait rien à dire. Il y a des pressions, effectivement, parce que l'image du Liban aujourd'hui est écornée par, effectivement, cette guerre civile qui se déroule en Syrie, par plus d'un million de réfugiés syriens vivant dans des conditions dramatiques, alors qu'effectivement, ce pays, le Liban, a une image plutôt bonne, pays touristique, au cœur du Moyen-Orient, avec des communautés qui s'entendent plutôt bien pour l'instant. Bon.
Cela dit, Omar, dont vous êtes bien sûr correspondant à Beyrouth, cela dit, on a entendu à la fin du mois de novembre votre magazine sur France Culture, sur la menace djihadiste au Liban. Je crois que vous vivez en famille à Beyrouth. Est-ce que vous vous êtes fixé des interdits pour la sécurité de votre famille? Est-ce qu'il y a des endroits au Liban que vous, en tant que correspondant, vous préférez éviter?
Alors, pour ce qui est de Beyrouth en tant que tel, à Beyrouth, les risques sont les suivants. Attentats, souvent, notamment dans les quartiers chiites, les quartiers sud de Beyrouth. Possible enlèvement, ça peut arriver, mais c'est relativement safe, c'est relativement en sécurité. En revanche, lorsque vous sortez de Beyrouth, lorsque vous allez par exemple au nord, à Tripoli, c'est extrêmement dangereux. Plus au nord, il y a des fiefs sunnites ou des cellules djihadistes. Et le long de cette frontière libano-syrienne, c'est carrément extrêmement dangereux. Là, vous avez des groupes djihadistes qui passent la frontière pour combattre le Hezbollah libanais. Lequel Hezbollah libanais combat du côté du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Donc, il y a des risques, effectivement, d'être enlevé ou même exécuté dans des zones où le gouvernement libanais n'a aucune prise.
Omar Oman, merci beaucoup. Omar Oman, correspondant de Radio France à Beyrouth.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Nous partons maintenant en Centrafrique, décembre 2013. Au tout début de l'intervention française, au moment où les exactions se poursuivent à Bangui, Olivier Poujade vous accompagnait avec Eric Damadio, technicien de reportage. Vous accompagnez une compagnie de parachutistes en patrouille dans Bangui. On l'écoute.
On est presque sur les hauteurs. Là. On est en bas, on a vu sur les hauteurs. Ok, c'est bon. Là, on fait demi-tour parce qu'on ne peut plus passer avec les babes.
Très vite, au bout de trois quarts d'heure de mission, des habitants nous informent que des miliciens tirent sur la population vers Boirabé, un des quartiers pauvres de la capitale.
Quand on est arrivé, il y a eu des coups de feu et il y a les gens qui se sont barrés en courant dans la montée.
La piste de terre rouge que nous empruntons est très étroite, le véhicule progresse. Malgré tout, nous atteignons les premiers baraquements. Des hommes se cachent dans les ruelles, ils ouvrent le feu sur le convoi, le combat est engagé.
Sur la gauche! Il y en a là! Stop! Chinois, arrête-toi! Contact! Hey,
faut les faire descendre. Soit on descend, mais on reste pas dans le vague. Il est à moins de 200 mètres, l'autre. Ils ont deux roquettes, hein. On débarque.
On débarque.
On débarque. On débarque.
À 50 mètres de nous, une centaine d'habitants s'est regroupée. Ils font de grands signes aux soldats français pour indiquer la position des tireurs. Une course-poursuite s'engage dans un véritable labyrinthe.
Donc les quatre individus se sont séparés sur une petite place. Ils sont partis en deux équipes de deux. Je ne peux plus poursuivre.
Les miliciens connaissent le terrain par cœur, ils finissent par échapper aux soldats français, contraints de regagner le convoi stationné devant l'école où l'adjudant Brujat organise ses troupes.
Donc en fait on a été pris à partie par soit une roquette, soit une grenade, qui par chance explosait derrière une murette à 3 mètres de notre véhicule de tête. Et renseigné par la population, donc on a essayé de les poursuivre. Mais leur force de frappe, c'est la rapidité. Et après, ils se disloquer dans ce dédale de maison et de ruelle.
Le monsieur que vous êtes en train de soigner, là, qu'est-ce qu'il a?
Donc, blessé par balle et a priori, la cartouche est ressortie des deux côtés.
Sur un chariot de fortune, deux hommes viennent de transporter un habitant. Il est gravement touché. Une balle lui a perforé le haut du thorax, une autre le mollet.
Ok, vous allez me donner un coup de main, vous allez me mettre le long du mur. Allez, hop, assis. Non, ok.
Ça va, là.
Y'a ta place. Calme-toi. Respire tranquille. Mec, reste avec nous. Bon, regarde-moi. Les secours arrivent. Bouge pas la jambe.
Tiens, serre-moi la main.
À l'écart, une femme, tétanisée, observe le soldat recouvrir les plaies d'une compresse.
Ça, c'est mon garçon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé?
Bon, je suis à la maison, je n'ai pas vu. On m'a dit qu'il était devant les Séléka qu'ils ont tiré. J'ai confiance avec vous. Je sais que vous avez sauvé mon enfant.
Les militaires sont eux très pessimistes sur le sort de cet homme. L'ordre est donné de le transporter à l'hôpital.
Tu soulèves pas là avec la jambe, tu la maintiens seulement, d'accord?
Avance. Allonge ta jambe. Dis-lui d'allonger sa jambe.
Jusqu'à. Regarde-moi les doigts.
Attention pour poser délicatement.
Le premier dispensaire où nous nous arrêtons n'a plus la capacité d'accueillir les blessés. L'homme sera finalement débarqué à l'hôpital communautaire de Bangui. Le caporal-chef Mani évoque, lui, la difficulté d'intervenir au milieu des civils.
Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est d'enlever la population, décaler dans la rue, pour vraiment les mettre en sécurité, quoi. S'il se passe quelque chose comme ça, on est sûr déjà qu'ils sont pas là. Et c'est surtout ça le plus important pour nous, quoi. C'est de les mettre à l'abri et sécuriser, quoi. Ils écoutent vite quand même, parce qu'ils savent que quand ça débarque comme ça, s'il y a un souci, eux vont tout de suite se mettre à l'abri. C'est après qu'ils arrivent et qu'ils sont vraiment... ils viennent nous parler surtout parce que voilà quoi, ils sont quand même assez contents qu'on soit là. Hein.
Le convoi redémarre vers un autre quartier, la mission n'est pas terminée.
Charrier,
oui,
tu me fais un changement de chargeur neuf.
Reçu.
Hein? C'est pas fini.
Ah ben là on va pas s'endormir. Hein.
Une fin de patrouille qui sera plus calme, mais les miliciens sont encore présents partout dans la ville de Bangui.
Voilà, impressionnant. On a peur pour vous, Olivier, avec Éric Damadjo dans le VAB. Vous êtes pris sous le feu, là.
Oui, complètement. On est pris sous le feu. Alors, c'est un exercice assez particulier auquel à peu près tout le monde autour de cette table s'est déjà prêté. C'est ce qu'on appelle le journalisme embarqué. Donc, vous êtes au milieu des militaires. Vous êtes tributaire de cette patrouille militaire. Vous n'avez pas de liberté quelque part et vous tournez un reportage pour constater le travail de ces militaires sur place. Et 9 fois sur 10, c'est ce que je dis souvent, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes dans un blindé, un VAB, un véhicule avant blindé, il fait très très chaud, 45 degrés, vous êtes à Bangui, vous sillonnez les rues de Bangui, et tout est assez calme. Généralement, quand les militaires se déploient, il y a peu de chances qu'il arrive quelque chose, et cette fois-ci, on a senti progressivement la tension montait pendant 3 quarts d'heure. Il ne se passait rien finalement, puisque la population de ce quartier défavorisé de Bangui, de Boirabé, avait prévenu les militaires. Ils se sont dirigés vers l'endroit où des miliciens Séléka s'en prenaient à la population. Et là, vraiment, il y a eu une rencontre, un face-à-face. On a été pris à partie. Et
c'est un échange de tirs qui dure combien de temps? Ça a l'air long.
Là, c'est presque un plan séquence que je diffuse. Là, c'est ça a l'air long, oui, quand on entend le bruit des balles, effectivement. effectivement, on a l'impression que c'est interminable, mais finalement, la séquence dure 1 minute 30, 2 minutes maximum, puisque ce sont 2 ou 3 hommes qui sont cachés derrière les maisons, qui ont des kalachnikovs, qui tirent contre le blindé, qui arment un RPG, un lance-roquette contre nous, et finalement, ils ne déclenchent pas le tir et ils prennent la fuite, quoi. Donc, ça semble assez long, mais curieusement, dans ce reportage, parce que il n'y a pas que ça. C'est effectivement ce que l'on retient, ce qui claque à l'oreille et ce qui impressionne, ce qui fait peur. Vous avez employé ce mot-là. Mais moi, ce que je retiens, ce qui m'a le plus marqué, c'est la séquence d'après, lorsque la population nous amène donc ce blessé. Un homme d'une trentaine d'années, dont je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Et c'est ça qui est le plus fort dans ce genre de reportage, c'est que vous vivez des moments très furtifs, mais très forts, avec plein de gens, les militaires, la population. Et ces gens-là, vous ne savez presque pas, les fixeurs aussi, dont certains, vous ne savez pas ce qu'ils deviennent par la suite. Et lui, on l'a quand même laissé dans un état assez critique à l'hôpital communautaire de Bangui. J'ai pris le portable de sa mère, je lui ai envoyé un texto pour lui dire on l'a déposé là, et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et c'est très marquant, ça. C'est la première fois que je voyais probablement un homme en train de perdre la vie devant moi, face à moi.
Olivier, il y a aussi des menaces contre les journalistes et les étrangers à cette époque. Je crois que vous êtes obligé de changer de lieu de résidence.
Ce n'est pas si clair que ça. C'est au bout d'une grosse semaine, en fait, que notamment le correspondant local d'RFI a reçu des menaces directes, parce qu'il faut savoir qu'RFI est la radio la plus écoutée et la plus exposée donc sur place. Et l'un de ces journalistes, le correspondant local, a reçu des menaces assez claires et assez directes, et qui englobaient également les journalistes français, parce que au bout d'un moment, l'action de l'armée française a été contestée, peut-être à juste titre, puisque les Français étaient partis donc pour désarmer les miliciens Séléka, à tendance musulmane, et les populations chrétiennes derrière se sont engouffrées derrière cette protection que leur offrait l'armée française pour s'en prendre, et donc à titre de représailles, contre les populations musulmanes. Donc ça a créé vraiment des tensions, des musulmans envers les Français, tout ce qui était français, parce que on avait l'impression qu'on s'en prenait à eux, quoi. Alors ce qui n'était pas le cas, et la mission de l'armée française à l'origine.
Merci Olivier Poujade. Jean-Marie Charon, je me tourne vers vous, sociologue, spécialiste des médias. Alors le reportage intéresse bien sûr le sociologue que vous êtes. Être reporter, c'est se lever le matin sans savoir où on dormira le soir, et c'est le socle du métier.
Le reportage, c'est l'un des fondements du journalisme moderne, hein, tel qu'il apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle. Il a une double filiation, en fait, pour les Français. C'est-à-dire d'abord une filiation anglo-saxonne. C'est un peu là qu'on a commencé à expérimenter cette forme de journalisme. Et puis, il y a une deuxième filiation française, elle, d'écrivains, naturalistes, hein, emmenés par Émile Zola. Il faut se souvenir que c'est un peu un des inventeurs du reportage à la française, comme l'a mis en évidence, d'ailleurs, Denis Ruelland. Puis le reportage, que l'on dira à l'époque grand, sera l'une des composantes du succès de la presse populaire française au début du XXe siècle. Là, on le feuilletonne à l'époque, hein, c'est-à-dire que tous les jours un petit morceau, pour inciter le lecteur à venir acheter le journal tous les matins. Il aura des figures, évidemment, la journaliste André Violet ou évidemment Albert Londres. Tout peut être objet de reportage à l'époque, les troubles en Chine, le bagne de Cayenne, mais aussi le Tour de France ou les transformations sociologiques de la France dans le Petit Parisien. Alors toutes les crises, les catastrophes du XXe siècle font l'objet de reportages, écrits, photographiques, radio, puis télévisuels. Guerre d'Espagne, Vietnam, Biafra, Balkans, quels qu'en soient les risques et les difficultés. Pourtant, le reportage en ce début du XXIe siècle peut paraître menacé. Menacé par l'immédiateté, l'information de flux. Menacés aussi sont les reporters, de plus en plus pris pour cible. Risque d'être blessé, tué, pris en otage, on en a beaucoup parlé à propos du Mali, de l'Irak, de la Syrie. Et puis, menacé, on pourrait dire aussi, peut-être par les réseaux sociaux, avec cette idée que ce sont les témoins qui viennent aux rédactions. Et on se souvient des images, des documents qu'on a reçus d'Iran, de Syrie ou d'Ukraine pendant les crises les plus fortes. En même temps, le reportage, me semble-t-il, suscite toujours bien des attraits. Il y a celui du journalisme debout, au moment où de plus en plus de journalistes travaillent assis, ne peuvent plus sortir des rédactions. C'est aussi le succès de 21, le MOOC dédié au reportage sous toutes ses formes, écrites, dessinées, photographiées. Et puis c'est l'attrait des magazines radio tels que celui de la rédaction de France Culture ou d'Interception pour France Inter. Et puis le reportage, c'est tout à fait intéressant, fait également l'objet d'expérimentations originales sur le web, que ce soit de la part de grands médias comme Arte ou Le Monde, par exemple, mais aussi de tout jeunes pure players. Par exemple, vous avez Le 4 Heures, qui est un pure player qui est consacré au reportage et qui combine l'écriture longue, le multimédia et l'écriture participative.
Merci Jean-Marie Charan. Pour rebondir sur ce que disaient Jean-Marie, Olivier, Omar, Ludovic ou Mathilde, c'est vrai qu'auparavant, les journalistes s'identifiaient sur un terrain de reportage en scotché sur le capot d'une voiture ou sur le côté presse ou TV. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire. C'est ça qui a changé, Mathilde ?
Peut-être pas toujours, effectivement. Sur les gilets pare-balles que Radio France nous fournit, il y a la possibilité de scratcher presse ou de ne pas le scratcher. Et selon les circonstances à Gaza, ça peut servir plutôt de se mettre en avant. Les Israéliens ne tapent pas normalement sur les journalistes. Il y a d'autres endroits, par exemple à Bangui, Olivier ne me contredira pas, il y a des moments où on avait plutôt envie de le cacher.
On ne savait pas trop, en fait. On n'était pas forcément d'accord à un moment ou à un autre. Moi, je ne pense pas que ça soit essentiel de s'identifier dans la rue. Maintenant, quand on est, il faut sentir le contexte, en fait. Et quand justement en Centrafrique, le vent a un peu tourné contre justement tout ce qui était français dans Bangui, eh ben il valait mieux peut-être un peu plus se cacher et juste arborer un drapeau blanc pour se déplacer dans la ville et ne pas montrer qu'on était vraiment français ou de la presse française, quoi.
Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Les coulisses des meilleurs reportages radio de l'année. Merci à nos invités, tous grands reporters. Mathilde Lemaire de France Info, multidistinguée cette année pour son reportage Le train de l'exode entre Donetsk et Kiev. Mathilde Lemaire qui a remporté le prix du reportage Radio France 2014, mais aussi à l'unanimité le grand prix Varenne de la radio. Olivier Poujade de France Inter, lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre. Olivier Poujade qui a remporté le trophée radio pour son reportage en Centrafrique, que l'on a entendu, l'opération Sangaris dans le piège de Bangui. Ludovic Piétenu de France Culture qui a couvert la guerre de Gaza l'été dernier. Une série de reportages remarquables avec Gilles Gallinaro que l'on a pu écouter sur toutes les chaînes de Radio France. Ludovic, à mon avis, un prix vous guette. Et Omar Waman qui était en duplex avec nous. Omar Waman, correspondant de Radio France à Beyrouth. Omar, lauréat 2008 du prix du reportage Radio France et habitué des terrains de guerre. Merci et bravo à vous quatre pour votre passion du reportage et votre modestie. Nous étions très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans Le Secret des Sources. Merci également à nos deux regards extérieurs qui nous ont accompagnés, Jean-Marie Charan, sociologue, spécialiste des médias, Thibaut Henton pour le web et les images, dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy et Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation de l'émission et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Richard Dufour. Dans un instant, le journal de Sarah Petitbon, suivi de Réplique, La Force Animale, rediffusion de l'émission du 15 février dernier. Alain Finkielkraut et ses invités Jean-Christophe Bailly et Jacques De Witt. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, Réplique, bonne journée sur Culture.
Je pense que le reportage de guerre, c'est peut-être un peu ça aussi. C'est important d'entendre les mortiers, d'entendre les obus, c'est la réalité d'un conflit. Mais de temps en temps, on se dit, l'auditeur, peut-être dans sa voiture à Paris, il pense que ça peut être un film américain. Et montrer la vie des civils, la vie qui bascule, ça peut-être ça touche.
Le long de cette frontière libano-syrienne, c'est carrément extrêmement dangereux. Là, vous avez des groupes djihadistes qui passent la frontière pour combattre le Hezbollah libanais. Il y a des risques, effectivement, d'être enlevés ou même exécutés dans des zones où le gouvernement libanais n'a aucune prise.
C'est ça qui est le plus fort dans ce genre de reportage, c'est que vous vivez des moments très furtif mais très fort avec plein de gens, les militaires, la population, et ces gens-là, vous ne savez presque pas, les fixeurs aussi, dont certains, vous ne savez pas ce qu'ils deviennent par la suite.